Il s'agit du premier groupe issu du projet pilote du programme de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement. Ce processus a souvent fait l'objet de critiques par son immobilisme et son inefficacité. Le président Faustin Archange Touadéra, présent à la cérémonie d'intégration de ses nouveaux membres des forces armées, a exprimé son grand plaisir de voir ces résultats, reconnaissant toutefois que l'immense chantier du DDRR n'a pas eu de réel succès par le passé. Le pays a connu depuis les années 2000 trois programmes de désarmement qui n'ont jamais abouti faute de moyens. Le président Touadéra a précisé que 139 volontaires sont prêts à démarrer un nouveau cycle de formation de 4 mois. 240 autres ont été réorientés vers des programmes de formation économique avec le soutien de la Banque mondiale.
John Kibangu, un colonel déserteur de l'armée congolaise, a été extradé lundi vers la République démocratique du Congo depuis la Tanzanie, après avoir menacé de chasser le président Joseph Kabila du pouvoir, selon le ministre congolais de la Justice. Ex-colonel entré en rébellion contre le régime du président Joseph Kabila depuis 2012, John Kibangu, 48 ans, avait menacé dans une vidéo diffusée les 18 et 19 janvier sur les réseaux sociaux de chasser Kabila dans 45 jours s'il ne demande pas pardon pour le massacre de catholiques qui avait marché le 31 décembre 2017.
Le Nigeria a assuré hier le Cameroun voisin que son territoire ne sera pas utilisé par des forces voulant déstabiliser le régime de Yaoundé. La semaine dernière, le Nigeria a extradé Sissiko Ayuk Tabe, responsable d'un mouvement séparatiste anglophone camerounais, et 46 de ses partisans à la demande de Yaoundé. Cette mesure a suscité les critiques du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
En Guinée, Amadou Salif Kébé, président de la Commission électorale nationale indépendante, a promis hier une publication d'ici la fin de la semaine des résultats des élections locales de dimanche. Jean-Roger Bion.
« Je demande aux uns et aux autres de se calmer, qu'il n'ait pas peur des résultats », a affirmé M. Kébé, assurant qu'il n'y a pas d'élection sans contestation. Des responsables de l'opposition comme du pouvoir ont évoqué des fraudes lors de ces premières élections locales depuis 2005. Des opposants ont dénoncé des irrégularités. Selon eux, certains chefs de quartier ont profité de la baisse d'affluence en fin de journée pour distribuer à des partisans du pouvoir les dizaines de procurations. Le président de la CENI n'a ni confirmé ni infirmé le taux de vote par procuration, mais s'est plaint du taux de participation qui semble avoir été un peu faible. À Kindia, dans l'ouest, des affrontements ont fait un mort et plusieurs blessés hier. Les forces de l'ordre ont tenté d'éloigner les militants de l'opposition qui entouraient un centre de dépouillement. La CENI espère publier les résultats vendredi.
En Afrique du Sud, la pression n'a jamais été aussi forte, tant dans l'opposition que dans l'ANC, son propre parti, pour que le président Jacob Zuma abrège au plus vite son second mandat, qui n'expire qu'en 2019. L'ANC n'est pas parvenue hier à statuer sur son sort et se retrouve demain pour discuter de son éventuel départ anticipé. Anastasie Tudiech.
La direction de l'ANC n'est pas parvenue hier à trancher sur le sort du président Jacob Zuma. La Commission nationale exécutive, principal organe de décision de l'ANC, doit donc se retrouver demain mercredi pour évoquer entre autres la transition entre le gouvernement actuel et son successeur. Jacob Zuma, dont le mandat expire en 2019, doit prononcer jeudi son discours annuel sur l'état de la nation devant le Parlement. Dimanche soir, l'exécutif de l'ANC avait rencontré Jacob Zuma dans sa résidence à Pretoria. D'après Julius Malema, un dissident de l'ANC, le président sud-africain a refusé de démissionner. Les députés de l'opposition au Parlement ont aussi déposé une nouvelle motion de défiance qui doit être soumise au vote le 22 février.
Le Front Polisario est prêt à des négociations directes avec le Maroc, a indiqué hier à Alger un responsable du mouvement indépendantiste sahraoui. Le point avec Raissa Girondin.
Mohamed Salem Oul Salek, ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraoui démocratique, a affirmé hier à Alger que la RASD est prête à entrer en négociation directe avec le Royaume du Maroc pour faire la paix. Le Polisario et Rabat n'ont plus négocié directement depuis l'échec d'un cycle de 5 ans de pourparlers en 2012. Une délégation sahraoui a été reçue le 25 janvier à Berlin par Horst Köhler, nouvel envoyé spécial de l'ONU. Rabat a annoncé aussi qu'une délégation du royaume chérifien rencontrerait M. Köhler à une date non précisée. Horst Köhler a invité les deux parties et les pays voisins, l'Algérie et la Mauritanie, à prendre part aux discussions. Le Maroc propose une large autonomie du Sahara occidental, mais refuse de discuter de la souveraineté marocaine. Le Front Polisario réaffirme le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui par un référendum et revendique l'indépendance de l'ancienne colonie espagnole.
Le trafic d'êtres humains est en augmentation en Libye, selon un rapport d'experts de l'ONU qui estime que les forces libyennes aident des groupes rebelles dans leur contrôle des routes migratoires. Le rapport cite plusieurs cas de migrants arrêtés par des agents libyens avant d'être remis contre paiement à des trafiquants d'êtres humains. Ce document confidentiel remis aux 15 membres du Conseil de sécurité affirme aussi que le groupe État islamique cherche à se rapprocher des trafiquants de migrants dans le sud du pays depuis son éviction de Sirte à 450 km à l'est de Tripoli en 2016.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, Wall Street a connu hier sa plus grande chute quotidienne. L'indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a perdu presque 1200 points et plus de 4,6% de sa valeur. Et l'indice élargi du S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprise cotée aux États-Unis, a chuté de plus de 100 points. Vendredi, le Dow Jones avait perdu 666 points. En réaction, la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a publié un communiqué disant, je cite, « Le président Trump se concentre sur nos fondamentaux économiques à long terme qui restent exceptionnellement forts avec le renforcement de la croissance économique, un taux de chômage historiquement bas et des salaires en hausse pour les travailleurs américains. Selon certains analystes économiques, les investisseurs craindraient une inflation et une éventuelle augmentation des taux d'intérêt par la Banque centrale américaine.
Toujours aux États-Unis, la Maison-Blanche doit maintenant décider s'il faut ou non publier le mémorandum de la minorité démocrate à la Commission du renseignement de la Chambre des représentants. Ce document réfute celui de la majorité républicaine sur les allégations d'abus de pouvoir commis par le FBI dans l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Les allégations en question concernent la procédure secrète de mise sur écoute de Carter Page, un ancien conseiller du candidat Donald Trump. Le président a publié la semaine dernière le mémorandum des Républicains alors que le débat faisait rage sur la nature partisane de ce document, selon ses détracteurs.
D'autre part, à 48 heures de l'expiration de la dernière loi de financement temporaire du gouvernement fédéral, l'incertitude persiste quant à un éventuel accord sur la principale pierre d'achoppement, l'immigration. Hier, le président Trump a rejeté des éléments clés d'une proposition bipartisane au Sénat. Il a qualifié de perte totale de temps, tout accord sur les Dreamers qui n'inclut pas une forte sécurité à la frontière et le mur, et c'est une citation dont on a désespérément besoin. Les Dreamers sont des centaines de milliers de jeunes clandestins venus très jeunes aux États-Unis en compagnie de leurs parents.
Reprise jeudi à Bruxelles du procès de Salah Abdeslam, le seul membre encore vivant des commandos djihadistes qui ont fait 130 morts en novembre 2015 à Paris. Il a décidé hier de garder le silence, soit une stratégie de défense annoncée dès le premier jour de son procès à Bruxelles pour une fusillade avec la police. Une peine de 20 ans de prison a été requise contre lui pour avoir tiré sur des policiers à Bruxelles à la fin de sa cavale en mars 2016. L'audience a été suspendue jusqu'à jeudi, qui pourrait être le dernier jour des débats, au lieu de vendredi, comme initialement prévu, le jugement devant être mis en délibéré.
Au moins 29 civils, dont 7 enfants, ont été tués en une journée en Syrie dans des raids aériens du régime contre une enclave rebelle près de Damas. Un nouveau drame qui illustre le lourd tribut payé par les civils dans le conflit. Ces frappes sur la Ghouta orientale, à l'est de la capitale, sont intervenues au lendemain de bombardements meurtriers à Idleb, province rebelle dans le nord-ouest du pays, où le régime de Bachar al-Assad est de nouveau soupçonné d'avoir utilisé des gaz toxiques après des cas de suffocation. Et Washington dit disposer de preuves sur le recours au chlore.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le chômage en Afrique devrait se stabiliser à près de 8% en 2018. L'Organisation internationale du travail indique que ce chiffre résulterait de la performance à deux vitesses des principales régions, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Le continent devrait enregistrer environ 1 million de nouveaux chômeurs en 2018. Les emplois informels prédominent l'économie jusqu'à 90% de la population au Bénin. Le Zimbabwe doit rembourser sa dette auprès des créanciers pour espérer la reprise de l'appui du FMI. L'institution de Bretton Woods a aussi appelé à un renfort international concerté associé à de solides réformes au niveau local pour relancer l'économie zimbabwéenne. Harare doit à la Banque mondiale 1,15 milliard de dollars, 601 millions de dollars à la BAD et plus de 3 milliards de dollars au Club de Paris. L'Éthiopie injecte 182 millions de dollars dans la région d'Oromia qui s'étend de l'est au sud-ouest du pays. Cet investissement concerne 167 projets dont 37 de la diaspora. Le gouvernement a mis à disponibilité 4600 hectares de terres principalement pour les secteurs de l'agro-industrie, de la manufacture et de l'agriculture. 31 000 emplois seront créés.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'ancien sélectionneur de l'Algérie réclame le paiement de son salaire.
Et oui, l'Espagnol Lucas Alcaraz, limogé en octobre après 6 mois de mandat, a saisi la FIFA pour obtenir le paiement de son salaire jusqu'à l'expiration prévue de son contrat en juillet 2018. Après une campagne désastreuse de qualification pour le Mondial 2018, 3 défaites en 3 matchs, la Fédération algérienne de football avait mis fin aux fonctions d'Alcaraz. C'était le 18 octobre dernier. Les négociations entre la Fédération et l'Espagnol sur le montant des indemnités de rupture de contrat n'ont pas abouti. Et le contrat de Lucas courait jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Celui-ci réclame à la Fédération algérienne 21 mois de salaire, soit 1 260 000 euros, selon le quotidien algérien Liberté. Le sélectionneur espagnol, décrié par la presse algérienne, avait été remplacé par l'ancien international algérien Rabah Madjer.
Pas de danger sur la participation de la Roja à la Coupe du Monde.
Oui, le gouvernement espagnol et la FIFA se sont accordés hier sur le besoin d'éclaircir au plus vite la situation de la Fédération espagnole de football, et ce plus d'un mois après la destitution de son président, Ángel María Vilar, pour son implication présumée dans un scandale de corruption. Le ministre espagnol des Sports, Íñigo Méndez de Vigo, a reçu hier à Madrid la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, en réaction à la lettre de l'instance du foot mondial qui avait exprimé en décembre sa préoccupation. Allez Drissa, avec vous quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Détroit bat Portland 111 à 91. Victoire de Washington sur Indiana 111 à 102. Orlando bat de justesse Miami 111 à 109. Défaite de la Nouvelle-Orléans face à Utah 109-133. Et autre massacre, Denver face à Charlotte 121 à 104.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La semaine s'annonce cruciale pour le président sud-africain Jacob Zuma. La direction de son parti, l'ANC, a convoqué pour mercredi la Commission nationale exécutive, principal organe de décision, seul habilité à faire partir M. Zuma. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion extraordinaire du comité de travail de l'ANC pour évaluer le rapport de la structure mandatée pour négocier le départ de M. Zuma de la présidence et la mise en place de la transition. Ces assises donc se tiendront un jour avant le discours annuel de M. Zuma sur l'état de la nation devant le Parlement. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint en Afrique du Sud l'analyste politique Achille Mbembe.
Il est fort possible que ce mercredi dans la nuit, l'ANC décide effectivement de mettre fin à la présence de M. Zuma à la présidence de la République sud-africaine.
Mais le comité de travail n'a pas le pouvoir de le destituer.
C'est la raison pour laquelle justement le Conseil exécutif national est convoqué pour mercredi dans la soirée. De cette réunion du Conseil national exécutif, on risque de sortir justement la décision de congédier M. Zuma.
Est-ce que Ramaphosa dispose d'une majorité suffisante pour justement le faire partir?
Il dispose, Ramaphosa, d'une majorité relative, telle qu'elle est sortie justement des dernières élections lors du congrès de l'ANC. L'hypothèse est que entre décembre et début février, un travail de fond a été effectué pour faire croître cette majorité. Et donc, le pronostic est que la majorité des membres de ce conseil suivra les instructions de M. Ramaphosa et déposera M. Zuma. Faute de quoi, disons, le Parlement prendra le relais et votera une motion de non-confiance qui fera chuter le gouvernement.
Comment vous expliquez la résistance de M. Zuma? Il a refusé de démissionner lors de la réunion de dimanche soir.
M. Zuma a peur d'aller en prison. M. Zuma, dans les conditions actuelles, risque de sortir du palais présidentiel pour aller tout droit devant les tribunaux. Et donc, j'imagine qu'il voudrait obtenir de l'administration M. Ramaphosa ou de ceux qu'il soutient la certitude qu'il ne sera pas poursuivi. Et donc, j'imagine que dans les négociations en coulisses qui ont lieu, M. Zuma essaye d'obtenir l'immunité par anticipation, non seulement pour lui-même, mais aussi pour l'ensemble de sa famille. Mais la stratégie qu'il poursuit est très risquée, à la fois pour lui-même, pour l'ANC et pour l'Afrique du Sud en général. L'ANC risque d'en sortir plus divisé qu'auparavant, et pour un pays qui a besoin de stabilité, qui a besoin d'être gouverné et qui a besoin de corriger la mauvaise direction qu'il a suivie au cours des 10 dernières années. Mais encore faut-il souligner que dans cette affaire, l'ANC n'est pas le seul acteur. Dire que le fait de n'avoir pas confronté à bras-le-corps sa crise interne a fait en sorte que la gestion de cette affaire maintenant lui échappe. Ou en tout cas, ils ne sont pas les seuls protagonistes. Les partis d'opposition sont aux aguets, la société civile également, les tribunaux et évidemment les milieux d'affaires.
C'était depuis l'Afrique du Sud, l'analyste Achille Membe à Johannesburg.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Deuxième semaine de grève générale illimitée dans le secteur public au Tchad. Les travailleurs protestent à travers ce débrayage contre la réduction drastique de leur salaire. Le collectif des fédérations syndicales du secteur privé et parapublic appelle de son côté ses militants à observer 2 jours de grève de solidarité, et ce depuis hier. André Kodmadjingar, notre correspondant, nous fait le point de N'Djamena.
Ces 2 jours de grève visent non seulement à soutenir les travailleurs touchés par la réduction des salaires, mais aussi un signal fort contre le taux excessif des impôts sur les revenus des personnes physiques prévus dans la loi des finances 2018. Les activités dans la ville de N'Djamena tournent au ralenti. Pas d'engouement devant les sociétés de téléphonie mobile et les banques de la place qui, d'habitude, grouillaient de monde. Sauf que les guichets automatiques fonctionnent. Quelques clients rencontrés devant les banques se bousculent pour exprimer leur mécontentement dans le micro de VOA Afrique.
Il faudrait effectivement que le gouvernement là, comprenne que le peuple est en train de souffrir.
J'ai des urgences, je suis venu chercher un peu de sous. J'ai maintenant la banque est fermée. Depuis 2014 à 2017, le gouvernement s'est endetté à plus de 800 milliards. Mais 2014 à 2015, nous n'avons pas encore de crise. Et ils ont pris ces bons-là, ils ont fait quoi avec?
Pour nous, clients, ça pèse sur nous parce que moi, je quitte Moudou, je voulais repartir. Et ce système m'a bloqué.
Le président de la commission formation et communication du Conseil national du patron
patronat tchadien trouve cette grève légitime. Mahamat Tayer Kirela.
Le droit de grève étant reconnu à ceux-ci par une loi, nous, employeurs, nous prenons acte de cet état d'âme. Ils ont réagi parce que déjà il y a une loi et nul n'est censé l'ignorer. C'est l'extérieur qui nous dit qu'il faut 30 milliards et il faut taper sur les employés pour prendre 30 milliards. C'est très douloureux.
Vu la détermination des travailleurs d'aller jusqu'au bout de leurs revendications, le gouvernement menace déjà de sanctionner les grévistes. Mahamat Mokhtar Ali, ministre de la fonction publique.
La grève, moyen légal reconnu aux travailleurs pour réduire drastiquement les capacités productrices d'une administration lorsqu'elle est déclenchée sans limite et sans contrôle. Dans tous les cas, le décret 687 sera appliqué, ainsi que la loi 32 aux agents publics absents de leur poste de travail.
Des menaces qui n'entament rien, la détermination des travailleurs, déclare le porte-parole de la plateforme syndicale revendicative, Barka Michel.
C'est une agression contre les travailleurs lorsqu'il dit qu'il faut leur appliquer la loi 32, une loi que nous avons attaquée au niveau du Bureau international du travail et le Premier ministre et son gouvernement ont accepté de faire une relecture de cette loi. Nous, on est dans une grève illimitée. Il peut ne pas payer le salaire pendant 10 mois, ça lui fera une plus grosse économie.
Les médecins qui acceptent le principe de service minimum dans les hôpitaux pour une durée d'une semaine, conformément à la recommandation de la plateforme syndicale revendicative, menacent déjà d'aller en grève sèche après le 6 février si aucune solution n'est trouvée. André Kodumadingar Ndjamena, VOA Afrique.
VOA Afrique, Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les violences intercommunautaires opposant les Hema aux Lendu continuent de faire des morts dans l'Ituri. Les Hema affirment qu'au moins 23 membres de leur ethnie ont été massacrés depuis vendredi et des centaines de maisons incendiées. Par ailleurs, les autorités font état d'une dizaine de combattants Lendu tués. Pour parler de ce conflit et de ses origines, Morgan Guiriek a joint Nikez Kibel-Beloka, directeur du journal Les Coulisses.
Les Hema ont attaqué, les Lendu ont répliqué, mais ils se sont battus entre les deux communautés.
Qu'est-ce qui oppose ces deux communautés?
Les deux communautés ont vécu et vivent ensemble. Le problème part d'abord des revendications des terres. De façon générale, les Lendu pensent qu'ils ont été dépossédés par les Hema.
Les Hema sont des éleveurs et les Lendu sont des agriculteurs.
Effectivement, vous savez, les conflits entre éleveurs et agriculteurs, c'est des conflits récurrents. Il suffit que la vache de l'éleveur aille brouter dans le champ des cultivateurs, ça pose des problèmes. Donc on ne peut pas parler à ce niveau d'une résurgence des conflits. Le conflit est latent, le conflit vit avec toutes les deux communautés.
Alors des analystes avancent aussi que cette hostilité remonte à la période coloniale.
Il y a une thèse laissée par des colons comme quoi les Lendu étaient un être inférieur apte aux travaux manuels. Par contre, les Hema, c'était un être civilisé qui pouvait mieux comprendre la science. Il s'est créé un clivage où vous avez une majorité des Hema qui ont étudié par rapport à une minorité.
Ce conflit entre Hema et Lendu ne date pas d'hier. En 2003, il avait déclenché l'intervention de la force militaire européenne Artemis. Pourriez-vous nous rappeler ce qui s'était passé à l'époque ?
Les hommes d'affaires Hema ont chassé les Lendu sur les terres que les Lendu considéraient comme les leurs depuis l'époque coloniale. Les Hema ont utilisé l'armée ougandaise et qui a agi contre les Lendu. Et les Lendu se sont vengés en brûlant presque 350 pieds de café des Hema, détruisant des maisons. Voilà l'élément déclencheur.
Et qu'avait permis l'intervention européenne Artemis?
Il y avait une disproportion de forces parce que les Lendu attaquaient la nuit, avaient des machettes, des flèches. Et comme les Hema étaient soutenus par l'Ouganda, il y a eu au bas mot 50 000 morts, ce qui a fait que Artemis, la force française, est venue déblayer les terrains pour permettre à l'actuel MONUSCO de s'asseoir un peu pour amener la paix.
La situation pourrait revenir à ce niveau de tension aujourd'hui?
L'avantage qu'il y a à Ituri, c'est que quand les communautés sont en conflit, il y a des notables. Les sages, chaque communauté appelle ses enfants au calme et finalement ils se retrouvent pour résoudre les problèmes assez pacifiquement. Donc je ne pense pas que ça va prendre l'ampleur de 99 à 2002.
C'était Nikez Kibel-Beloka, directeur du journal Les Coulisses. Signalons qu'il est l'auteur d'un livre sur le même sujet, Ituri, de la guerre identitaire au pillage des mines d'or de Kilomoto par des multinationales anglo-saxonnes.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
La piraterie maritime s'intensifie dans le golfe de Guinée. Un pétrolier de Hong Kong avec un équipage indien de 22 membres est porté disparu depuis dimanche. Avant sa disparition, le MT Marine Express, mouillé dans le port de Cotonou au Bénin, est transporté 13 500 tonnes de pétrole. C'est le deuxième bateau à disparaître dans cette région depuis le mois passé. Raissa Girondin a joint Omar Haruna, directeur de US Africa Cyber Security Group et ancien ambassadeur du Bénin à Washington.
Oui, en effet, il faut dire que cet événement n'est pas singulier, hein, parce que déjà en janvier, il y a un autre navire qui a été pris dans les mêmes environs au large des côtes du Bénin. Les membres d'équipage, en majorité, étaient indiens et ont été relâchés 6 jours plus tard. Donc, ça devient de plus en plus coutumier et je crois qu'il faut que nos autorités, et pas seulement les autorités béninoises, mais les autorités de toute la région prennent ce danger très au sérieux.
On se souvient de la piraterie au long de la Somalie dans l'océan Indien qui a complètement disparu. Mais la menace, elle s'est déplacée dans le golfe de Guinée. Est-ce qu'il y a une urgence dans le domaine de la sécurité et la sûreté maritime dans la région?
Oui, il y a une urgence et il faut dire que dans le golfe d'Aden, des mesures ont été prises, ce qui a complètement dissuadé les pirates et ce qui ne se fait pas dans le golfe de Guinée. Pour moi, il y a déjà un manque de moyens criards au niveau du golfe de Guinée. Il faut que nos gouvernements mutualisent leurs ressources. Il faut surtout aussi que les lois soient harmonisées et que l'aspect répressif des lois soit clair, parce que les lois sont hétérogènes en ce moment dans le cadre de la piraterie maritime au niveau de nos institutions en Afrique.
Donc selon vous, il pourrait y avoir une solution commune africaine pour mener à bien cette lutte?
Il doit y avoir une solution commune. Et dans ce sens, déjà, il y a des programmes qui étaient en place. Par exemple, entre le Nigeria et le Bénin, il y a ce qu'ils appellent un projet de prospérité dans le golfe de Guinée qui permettait au Nigeria et au Bénin de mettre ensemble leurs ressources contre la piraterie. Mais aussi, on a besoin de l'appui des partenaires étrangers. Parce que vous savez, le golfe de Guinée est ce qu'on appelle en anglais high traffic. Et à peu près 25% du pétrole vers l'Amérique du Nord vient de cette région. Il faut essentiellement qu'il y ait un partenariat entre ces pays et les États-Unis. Mais aussi la France. Je sais que la France avait un dispositif dans la région qu'ils ont appelé Corimb, et qui s'occupait des intérêts de la France parce que effectivement ils ont des intérêts dans cette zone-là quand il s'agit du pétrole.
Oui, à côté de la piraterie, il y a l'émergence d'un trafic en tout genre. Les côtes africaines sont littéralement pillées par des pays qu'on connaît qui viennent se servir dans ces eaux. C'est un vrai problème selon vous?
C'est un problème parce que ça va tuer déjà le commerce océanique dans la région. Le Nigeria a une grande responsabilité. Parce que quand les pirates vont sur les bateaux, c'est pour siphonner au fait le pétrole qui sort des puits nigériens. C'est important que ces pays-là prennent leurs responsabilités d'abord, mais surtout que nos pays africains prennent la mesure de la situation.
C'était Omar Haruna, directeur de US Africa Cyber Security Group et ancien ambassadeur du Bénin à Washington. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.